Vous écoutez Séquence Parc sur 107FM et sur le site www.radiopartas.net.
Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi, à 8h30.
Séquence Parc sur le 107FM.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de tourisme et de changement climatique. Pour cela, je suis en compagnie de trois chercheurs de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, Emmanuel Salim, maître de conférence en géographie, Marie Éveillard Buchou, maîtresse de conférence en géographie de l'environnement, et Julien Rez, maître de conférence en sciences économiques. À mes côtés également, Juliette Wettstein, chargée de mission tourisme au Parc National. Bonjour à tous.
Bonjour.
Pour commencer, peut-être, est-ce que chacun à votre tour, vous pourriez vous présenter alors rapidement hein, les travaux que vous avez pu réaliser, hein, les thématiques sur lesquelles vous avez travaillé et ce sur quoi vous êtes occupé actuellement. Marie, peut-être.
Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis géographe de l'environnement, c'est-à-dire que je travaille sur des questions environnementales au sens large. Et j'ai, on va dire, deux focus de travail, une dimension peut-être un petit peu plus naturaliste de l'environnement, parce que je travaille sur les habitats de biodiversité, leur caractérisation, et notamment sur les dimensions un petit peu de relief et de ben comment est-ce qu'on peut définir un habitat, quelles sont ses caractéristiques et ses spécificités. Et puis il y a une autre dimension dans mon travail qui va être d'interroger en fait les usages et les gestions et la gestion des espaces naturels et en fait finalement les impacts que vont avoir cette gestion et ces usages sur donc ces espaces naturels avec ce focus sur ces habitats de biodiversité. Dans ce cadre-ci, comme j'ai beaucoup travaillé, que ce soit sur le littoral et en montagne, sur des espaces qui sont et protégés, mais également aussi ouverts au public, et en fait, surtout à un public dont le vecteur, en fait, c'est la fréquentation touristique et les activités en fait, récréatives et sportives. Donc là, ces deux, trois dernières années, j'ai un focus pas mal sur cette entrée, les activités récréatives et sportives, les sports de loisirs, que ce soit en montagne et sur le littoral, et quels sont les impacts qu'ils peuvent avoir sur les espaces naturels, et donc notamment la biodiversité ouverte et élargie sur ces questions aussi de comment est-ce que le changement climatique vient rajouter un petit élément encore de transition dans tout ça.
Et en montagne, c'était où ? C'était sur quel site ?
Alors, ces deux dernières années, j'ai travaillé avec un laboratoire de Limoges, Géolab et de Chambéry, Editem, sur différents massifs dans les Bauges, Belledonne, et puis un petit peu aussi sur les Écrins, donc dans les massifs Isère, Savoie et Haute-Savoie, en fait.
Très bien. Julien ?
Oui, Julien Reiss. Maître de conférence en économie. Moi, mes recherches, elles ont porté essentiellement depuis mes études doctorales sur des questions de politique d'insertion et politique de l'emploi. Je travaille majoritairement sur les systèmes de protection sociale et les politiques sociales. Mais depuis à peu près maintenant deux ans et demi, j'ai réorienté une partie de mes recherches. Enfin, c'est pas que je les ai réorientées, je les ai plutôt complétées avec une approche territoriale. Donc, je m'intéresse de plus en plus aux dynamiques territoriales, et plus spécifiquement aux dynamiques socio-économiques des territoires. Avec depuis un an des recherches menées avec un collègue de Grenoble sur les questions de dynamique du territoire en montagne. Et je suis impliqué depuis un an et demi sur un réseau de recherche qui s'intéresse à un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, donc avec des questions d'insertion, mais liées vraiment à des spécificités liées au territoire.
D'accord. Emmanuel ?
Oui, donc Emmanuel Salim. Donc moi, je suis aussi maître de conférence en géographie à Toulouse Jean Jaurès. Bon, moi, j'ai vraiment une entrée montagne dans mes travaux depuis le début. J'ai commencé à travailler au laboratoire Editem, donc de l'Université Savoie-Mont-Blanc, sur l'évolution du métier de guide de haute montagne face au changement climatique. D'une manière générale, dans mes recherches, j'essaie d'articuler l'évolution géomorphologique du terrain, enfin, comment est-ce que le milieu physique évolue du fait du changement climatique et comment est-ce que l'évolution de ce milieu physique a une influence sur les pratiques qui ont cours dans ces espaces. Donc j'ai commencé avec les guides de haute montagne, transformation du métier. Et puis j'ai bifurqué sur ce qu'on va appeler, grosso modo, ce qu'on appelle le tourisme glaciaire, c'est-à-dire le tourisme autour des grands glaciers, avec l'idée d'essayer de comprendre, aujourd'hui on a ces grands glaciers qui disparaissent, ben comment est-ce que cette disparition des glaciers elle a une influence sur les acteurs du tourisme ? Qu'est-ce que ça implique en termes de vulnérabilité, d'impact, d'adaptation? Et puis qu'est-ce que ça implique en termes de comportement, de perception, de changement, de représentation du paysage glaciaire chez les visiteurs? Donc ça a été mon travail de thèse que j'ai mené donc au laboratoire Edithem, mais sur des terrains qui étaient situés en Autriche, en Suisse et en France. Et là maintenant, depuis 2 ans et demi à peu près, je me suis ouvert à des thématiques un peu plus générales. J'ai tout un pan de mon travail qui s'intéresse aux questions d'atténuation du changement climatique, les questions de décarbonation du tourisme notamment, avec un travail qu'on avait mené notamment autour des stations de ski. Des travaux autour de l'évolution des pratiques amateurs d'activités récréatives et notamment l'alpinisme. Toujours cette question de l'évolution du support physique et comment est-ce que ça influence les pratiques. Donc ça, c'est des travaux que j'ai menés à l'université de Lausanne, donc sur le site de Sion, donc vraiment au cœur de la montagne, avec aussi un travail sur le ski d'été et puis l'évolution systémique des acteurs en lien avec l'évolution de ce tourisme-là. Et donc, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis... je dis n'importe quoi, ça fait pas 1 an et demi, ça fait 6 mois que je suis recruté à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Et dans ce cadre-là, bah, on a essayé avec Marie, avec Julien, de développer un travail en collaboration avec Juliette sur le parc des Cévennes et sur l'évolution des pratiques récréatives face au changement climatique.
On va y venir, mais donc du coup la montagne hein, vous rassemble quand même tous les trois, et c'est vrai que c'est en haute altitude qu'on voit le plus les effets du changement climatique. Là, c'est frappant.
Bon, disons que oui, on a une quantité d'éléments. On peut penser à la neige, qui est l'élément dont on parle peut-être le plus, qui est très visible. Le cas des glaciers aussi, le permafrost et les écroulements rocheux que ça implique. Donc c'est vrai qu'on a de nombreux impacts du changement climatique qui sont très visibles en montagne.
Donc Juliette, pour quelle raison le parc national a donc sollicité cette équipe de chercheurs pour travailler à ses côtés sur le tourisme et le changement climatique ?
Alors au parc, ça fait plusieurs années qu'on se pose la question de l'impact du changement climatique sur les pratiques en général, économiques des habitants et puis aussi des touristes. Et en 2022, on a commencé à se donner une structure pour se poser ces questions. Et on est entré dans le programme NatureAdapt, qui est une espèce de procédure pour consulter l'ensemble du territoire, l'ensemble des parties prenantes sur ce qu'on appelle des endroits de vulnérabilité, des endroits où on considérait que potentiellement le changement climatique, il allait... un peu changer l'ordre des choses. Et donc, il y a eu plusieurs sujets, et on en a déjà parlé ici, et notamment le tourisme. Et ça, il y a beaucoup de sujets qui sont revenus sur le tourisme, mais il y en avait un qui revenait au fur et à mesure des consultations d'habitants, de professionnels du tourisme, au sein même de notre commission tourisme, qui est une instance importante au parc. C'était, mais en fait... Les gens, quand ils vont voir qu'il fait chaud et qu'il y a moins d'eau en bas, ben en fait, ils vont monter chez nous et il y aura beaucoup, beaucoup de monde chez nous. Et c'est vrai que ça, on l'a vraiment beaucoup retrouvé et on s'est dit comment on peut, nous, parc, essayer d'anticiper ces changements, essayer de voir s'il y a... des endroits où ça poserait problème, essayer de voir les vulnérabilités et garantir que les milieux concernés, puis les pratiques qui existent déjà, elles pourront se maintenir et que tout se passe bien. Et donc, on était là à se poser ces questions, à se dire comment on allait faire. Et puis, on a entendu parler des travaux de Emmanuel Salim. Et sur la haute montagne, on s'est dit, on allait le rencontrer et lui parler de la moyenne montagne et du parc national des Cévennes, est-ce que ça pourrait l'intéresser de nous aiguiller, de chercher avec nous comment on peut anticiper ces changements futurs pour mieux s'y préparer.
Vous avez accepté tout de suite comment ça s'est passé?
Bon, il se trouve que j'ai reçu le message au moment où j'étais en transit entre l'Université de Lausanne et puis du coup l'Université de Toulouse. Puis donc j'avais un peu aussi envie de diversifier les terrains d'études et peut-être de travailler sur d'autres choses que la haute montagne uniquement, ou d'autres problématiques, d'autres... Donc oui, ça m'a tout de suite... intéressé. Ouais.
Et donc vous avez créé cette équipe spécifique. Enfin, comment s'est fait un peu cette collaboration entre vous? Enfin voilà.
Alors donc faut savoir qu'on a tous été recrutés en même temps. Et donc au début de notre recrutement, on s'est tous rencontrés. Et puis après, ben quand on a commencé à se poser cette question, ben, en fait Marie, Julien, c'est des discussions qu'on avait pu avoir par ailleurs. On s'est dit que ce serait une bonne idée de mettre en commun nos approches qui sont un petit peu différentes. On a tous un angle d'attaque un peu différent. Et donc, ça constituerait une équipe tout à fait pertinente pour le projet.
C'était un souhait de l'université de travailler sur ces questions, peut-être au cas où il y aurait d'autres demandes de la part de la région Occitanie. Enfin, c'est une thématique, on va dire, qui émerge, qui...
Bon, j'ai l'impression qu'il y a en Occitanie, il y a la région déjà qui pousse des projets avec notamment ce qu'ils appellent les défis O3T, qui ont des thématiques qui sont liées un petit peu à ces questions de transition, d'adaptation, de changement climatique. Et à l'université de Toulouse, en fait, on est plusieurs universités. Il y a Toulouse Jean Jaurès, Toulouse Capitole, Toulouse Paul Sabatier et d'autres. Et en fait, il y a une entité un peu générale qui s'appelle l'université de Toulouse, qui porte un projet qui s'appelle TIRIS. Et dans ce projet TIRIS, c'est ces thématiques de transformation, d'adaptation, de problématiques environnementales, en tout cas, sont très présentes. Donc je pense que ça rentrait assez bien dans le champ que porte l'université aujourd'hui.
D'accord. Donc Juliette, la question qui est posée à l'équipe, hein, ils vont tenter de répondre à la question suivante. Comment le changement climatique transforme-t-il les espaces et les pratiques touristiques et sportives de nature au sein du parc? C'est une vaste question, c'est bien ça. Donc comment...
Oui, ça, disons, c'est le cadre général. Et nous, on s'est dit, bon, pas pour commencer, pourquoi pas tenter de répondre à ce sujet-là des zones de fraîcheur. En fait, ce qu'on constate, c'est que, donc comme je le disais, les débits d'eau se réduisent dans les rivières. Les spécialistes s'accordent à dire qu'on pourrait assister à une baisse des débits annuels des cours d'eau, comprise entre 20 et 40% d'ici 2050, qu'il y a des étiages plus précoces, plus sévères, plus longs. Donc ça, c'est des données qu'on a sur ce qui va arriver. On sait par ailleurs que les températures montent, elles vont continuer de monter, et que tout ça, ça va rendre les lieux de fraîcheur très attractifs. Et donc, on va chercher plutôt sur ce type de zone au début. Après, j'espère qu'on va continuer à travailler sur ce sujet et sur le changement climatique et ses impacts. Mais là, c'est vrai qu'on se concentre sur ça dans un premier temps.
Ouais. Et donc, vous avez chacun vos spécialités. Comment vous allez aborder chacun dans votre domaine ces problématiques? Très concrètement, comment vous allez procéder?
Ouais, je vais prendre le relais. Je parle en tant qu'économiste. Hein. Moi, j'ai intégré en fait l'équipe essentiellement pour aborder la question de l'impact. Donc l'impact sur le territoire. Comment le changement climatique peut avoir un impact sur la dynamique économique et sociale du territoire. L'idée, en fait, c'est de créer une batterie d'indicateurs pour pouvoir évaluer les effets que peuvent avoir en fait tous ces changements. Bien sûr, du côté de la part en fait des pratiques qui sont effectuées par les personnes qui viennent. En tant que vacancier dans le parc des Cévennes, mais aussi du côté des acteurs de terrain, c'est-à-dire les sociopros, comment ça peut impacter le développement de leurs activités. Parce qu'évidemment, il y a toujours derrière une question aussi de rentabilité des activités qui sont proposées et savoir comment on peut adapter en fait, l'offre en fonction des changements climatiques qui sont en cours.
Enfin, j'ai une question qui est peut-être bête, mais c'est facile. Enfin, sur d'autres territoires, hein, ce que vous avez pu observer, il y a quand même C'est possible de proposer, enfin, pas rapidement, mais en tout cas de s'adapter au plus vite, d'anticiper avant que ça devienne trop contraignant. Enfin, est-ce que les acteurs sont assez réactifs ?
Bon, ça va vraiment dépendre des situations, je pense. D'une manière générale, c'est quand même un processus qui prend un peu de temps. Et notamment parce qu'il faut éviter ce qu'on appelle la maladaptation. Hein. C'est l'idée de développer des stratégies qui viendraient réduire la vulnérabilité d'un acteur ou d'un système face à un élément et qui, au contraire, finit par l'accroître, quoi. Donc ça demande quand même... ça se fait pas du jour au lendemain. Ça demande quand même de bien comprendre les dynamiques en place, les interactions entre les différents acteurs, entre les différents... Moi, dans le cadre de mon travail, j'essaie de plus en plus de réfléchir à ces questions-là sous forme de système, d'essayer de comprendre, bon, bah, on est sur un territoire, c'est ce qu'on avait fait notamment quand on avait travaillé sur le ski d'été en Suisse, qui sont les différents acteurs, quelles sont leurs positions, quelles sont leurs vulnérabilités, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs, comment est-ce qu'ils s'adaptent. Et donc, en ayant cette compréhension un peu holistique, on peut au moins éviter le développement de stratégies qui viendraient augmenter encore la vulnérabilité de certains, ou de stratégies qui, en fait, auraient comme conséquence d'impacter d'autres acteurs. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça qu'on essaie de faire. Alors, comme l'a dit Juliette, c'est vrai que ça, c'est un travail qui est de longue haleine. Hein. Et puis là, on est sur un projet qui vient de démarrer et qui dure un peu plus de 6 mois. Donc, on est vraiment au début de ce travail. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est... focaliser sur la question des zones de fraîcheur, de baignade, parce que ça nous permet d'avoir une entrée très, très concrète, en fait, sur un élément très précis sur lequel
et
on va pouvoir...
Et très visible. C'est oui. Parce que c'est vrai qu'on disait en montagne, ça se voit bien. Ici, en moyenne montagne, ça se voit peut-être moins, sauf, effectivement, tout le monde pense à la rivière, ici. Julien, tu voulais poursuivre ?
Non, en fait, je voulais juste apporter un élément par rapport, il me semble, à la configuration du territoire. Bon, comme Emmanuel et puis comme Marie, on vient juste d'être recrutés, on vient forcément d'autres régions, on n'est pas originaire de Toulouse. Moi, je viens de Grenoble, j'ai vécu pendant 20 ans là-bas. Et c'est vrai que la configuration du territoire avec la montagne est complètement différente de ce qui se passe dans les Cévennes. Il faut regarder aussi la population qui est sur le territoire, la dynamique économique, les emplois qui sont créés, quelles sont les industries qui existent. Voilà, et tout ça, il faut en tenir compte pour pouvoir comprendre ce qui se passe clairement ici dans le parc national. C'est pas du tout les mêmes logiques d'acteurs qui se déroulent. Il y a aussi une dimension un peu, j'allais dire, presque politique. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce que font les conseils départementaux, les conseils régionaux, les élus locaux. Qu'est-ce qu'ils vont pousser, en fait? Quelle est la dynamique qu'ils veulent mettre en place? Et ça, c'est aussi un questionnement qu'on peut se poser en termes de politique publique.
Marie?
Oui, bah, en fait, il y a aussi tout un enjeu autour de cette identification de ces espaces et de ces zones sur lesquelles travailler, puisqu'il y a plein de choses que l'on sait de manière plus ou moins inconnue, implicite. Il y a tout un... Enfin, si on demande un peu à n'importe quelle personne qui vit dans les Cévennes, il y a ces petits endroits où il va aller se baigner, où elle va aller se baigner. Donc, il y a plein de petites choses qui sont sues, mais finalement, au global, il y a encore beaucoup à établir et en fait un gros travail avant même de pouvoir penser ces jeux d'acteurs et la transition ou ces transitions de ces différentes activités étant déjà de les identifier. Et ça, c'est l'enjeu un petit peu numéro un qui peut-être paraître évident, mais qui finalement est déjà un gros travail. Puisque finalement, à l'heure actuelle, et là je reviens sur l'enjeu de territoire hein, dont parlait Julien, c'est que y a tout un ensemble de petites vallées, il y a énormément de cours d'eau là. Il y a plus d'un millier de cours d'eau là sur le territoire des Cévennes. Donc déjà, rien que ce chiffre retranscrit bien le fait, la difficulté d'aller ensuite agir sur le terrain, d'aller identifier tous ces sites. Et voilà, donc on peut pas, on a besoin de ce travail d'inventaire au préalable. Et c'est un peu, c'est tout le petit travail de fourmillement du chercheur d'ailleurs, de faire ce travail d'inventaire avant même toute analyse complémentaire derrière. Et c'est en fait en ça que tout commence, parce qu'on est vraiment aux prémices de ce travail d'inventaire. Et du coup, il est nécessairement un petit peu long, en fait. Hein. Donc voilà, c'est un gros travail sur lequel on commence tout juste à s'engager. Ouais.
Donc aller interroger les acteurs, enfin ça demande de nombreux entretiens pour répertorier un petit peu tout ça.
Voilà, il y a tout ce travail qualitatif, enfin avant, après ce travail d'inventaire, effectivement, il y a ensuite ce travail qualitatif d'échanger avec ces différents acteurs du territoire, mais avant à être identifié, effectivement. Ouais.
Et à terme, quel impact pour la biodiversité, enfin c'est le point final, ça c'est.
Alors il y en a divers, mais moi c'est plus c'est notamment celui qui va m'intéresser effectivement, c'est-à-dire aujourd'hui les activités existantes et où elles sont. Déjà, on a un certain nombre d'éléments de réponse hein, sur les impacts sur la biodiversité. Par exemple, une zone qui va être très baignée en journée, les animaux vont pas forcément vont moins y être en fait. Il y a plein de monde, donc ils vont aller se planquer ou ils vont aller ailleurs et puis ils vont ressortir le soir. C'est ce qu'on peut observer dans certaines zones de baignade, mais c'est ce qu'on peut aussi observer en montagne, hein, par exemple au bord des sentiers, les bouquetins, les chamois, ils fuient un peu les sentiers en journée. Mais cela dit, pour savoir ça, on a aussi besoin de savoir où ils sont les gens. Et c'est pas très très facile de prime abord de compter et aussi de qualifier où vont ces personnes-ci. Donc, mais effectivement, un des objectifs dans cette identification, ça va être derrière de regarder comment va réagir. Alors moi je parle de faune parce que c'est le focus sur lequel je travaille le plus, mais comment va réagir la faune, alors que ce soit mammifères, oiseaux, batraciens, etc. Et puis aussi la présence humaine, quelles conséquences ça peut avoir. Typiquement une zone baignée fortement, on sait qu'en été on a un certain nombre de déchets, on met de la crème solaire, etc. Donc ça va jouer par exemple sur la qualité des eaux, donc ça va jouer sur les espèces qui ont besoin de l'eau comme un élément de leur habitat, que ce soit parce qu'ils y vivent, parce qu'ils en tirent une partie de leurs ressources, etc. Donc c'est toutes ces questions qui sont à investiguer, en tout cas à mon sens, au regard de la biodiversité, sachant qu'effectivement les questions de transition et de changement climatique vont potentiellement amener une nouvelle fréquentation sur des nouvelles zones qui en seraient peut-être exemptes pour le moment. Tout l'enjeu va être de chercher à les identifier.
De voir s'il y a des zones préservées qui risqueraient d'être impactées. Et
exactement.
Que ça peut engendrer,
Et derrière, ça pose la question de quelle gestion on veut en faire,
gestion,
en fait.
Voilà.
Est-ce qu'on décide de préserver certains endroits, mais après se pose la question de l'accessibilité, parce qu'après tout, en tant qu'être humain aussi, on va souffrir de la chaleur, et le corps humain lui-même a besoin de ces zones de fraîcheur pour vivre et pour aller bien, en fait. Donc c'est des vraies questions ensuite de choix, et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on travaille, qu'il est important d'échanger avec les différents acteurs et aussi avec les gestionnaires, d'où le fait de travailler aussi avec le parc d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on fait derrière, en fait. Et en fait, y a pas vraiment, pour le moment, il n'y a pas tant que ça une véritable réponse, mais ça suppose de soulever tous les enjeux, en fait.
Ça commence déjà par faire un état des lieux, voilà.
Exactement.
Emmanuel, pour ce qui te concerne, donc concrètement, quel sera, comment tu vas procéder ?
Bon, on a plusieurs pistes de travail. Si je reprends l'exemple des zones de baignade, on a donc tout un travail d'inventaire qui est en train d'être fait pour repérer les zones, pour un peu les caractériser, pour savoir sur lesquelles on va travailler. Du type de travail que je peux mener et que j'ai été amené par le passé, c'est une fois qu'on a sélectionné ces sites, essayer de comprendre quelles vont être les perceptions qu'ont les personnes qui les visitent de cet environnement, comment ils se le représentent et qu'est-ce que ça peut avoir comme... qu'est-ce que cette représentation et cette perception peuvent avoir comme influence sur leur comportement. Et donc essayer de comprendre pourquoi les gens sont là, qu'est-ce qui les a amenés, comment est-ce qu'ils perçoivent le lieu et comment est-ce que tout ça peut influencer leur comportement, leur désir par exemple de quitter un lieu de baignade plus en aval pour remonter, pour trouver de l'eau plus fraîche, pour trouver des températures plus fraîches. Donc ça c'est concrètement des enquêtes, des entretiens qu'on mène auprès des pratiquants, des fois des enquêtes quantitatives. Par exemple ce type de travail qui va être couplé à après avec des entretiens auprès des différentes parties prenantes du tourisme dans le parc.
Est-ce que vous partez avec des hypothèses ou pas ? Enfin, non, c'est vraiment juste un état des lieux où il y a déjà un postulat
Bon, si on pense par exemple à ces questions de pratique et de comportement, il y a déjà toute une littérature qui existe sur la question du changement climatique et du changement de l'environnement, sur ce qu'on appelle les comportements de substitution. Comment est-ce qu'une personne va, du fait des conditions météorologiques ou climatiques, substituer, alors ça peut être spatialement, aller d'un lieu à un autre, ça peut être temporellement, changer de saison de pratique par exemple, ça peut être... Typiquement, j'avais travaillé sur les guides, stratégiquement, changer la manière dont on va aborder les activités qu'on fait, changer d'activité, Donc il y a déjà toute une littérature qui est assez forte sur ce, assez développée sur ce sujet. Une hypothèse de base, ça pourrait être que, comme je le disais juste avant, hein, on a une augmentation des températures à l'aval, une augmentation de l'eau aussi, on pourrait observer une remontée des pratiquants pour chercher des lieux de fraîcheur. Quoi. C'est un peu, je crois, l'hypothèse de base sur laquelle on a lancé un peu le projet.
Et j'ai une question, parce qu'on a vu les étés de forte canicule, que le bord de mer avait été un peu délaissé pour la côte atlantique un peu plus fraîche. Le fait de, outre au sein même du territoire qu'il y a un déplacement, mais qu'il y a un déplacement de région à région, c'est aussi une hypothèse. Enfin, la recherche de fraîcheur, elle n'est pas forcément dans le territoire donné, elle est à l'échelle nationale.
Oui, même européenne.
Enfin, même européenne.
J'ai en tête un rapport de la Commission européenne qui avait été publié il y a quelques mois et qui avait fait des... En gros, il s'était basé sur les comportements actuels, aux températures actuelles, enfin aux conditions thermiques actuelles, et l'avait projeté en 2050, 2070, et on voyait clairement une baisse de fréquentation des sites méditerranéens, typiquement, et une remontée des fréquentations au nord de l'Europe, dans les pays scandinaves notamment. Alors bien sûr, c'est des projections qui ont tout un tas de limites méthodologiques, mais ça donne quand même un peu l'idée.
L'idée aussi, on parlait de saisonnalité, bah de peut-être moins randonner au mois d'août sur les chemins de grande randonnée, que ça devienne plutôt au printemps, à l'automne. Enfin, Juliette
Effectivement, c'est un des autres axes de notre réflexion sur le changement climatique, parce que notre territoire est très traversé par des grands chemins de randonnée qui ont toujours été fréquentés à partir du printemps et puis tout l'été. Et un peu l'automne. Et aujourd'hui, on voit que faire de la randonnée quand il fait plus de 40 degrés, sans ombre, en Crète, avec des sources d'eau qui, du coup, ne sont plus là, ça pose la question de nos chemins de randonnée, ça pose la question de l'itinérance longue qui traverse le parc, d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Est-ce que je trouverai de l'eau? Est-ce que je trouverai de l'ombre? Est-ce que je trouverai de la fraîcheur? Effectivement, c'est aussi un axe sur lequel il faut qu'on travaille pour essayer d'anticiper comment ça changera. Est-ce que les pratiques vont changer? Est-ce que les gens vont randonner beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard? Quel impact ça aura aussi sur les milieux? On est dans ces questionnements-là, on essaie de chercher ce que ça va être dans le futur et de le préparer au mieux pour que, à la fois, comme le disait Marie, les gens continuent de fréquenter ce territoire et d'avoir accès à une nature préservée, et aussi que la faune et la flore qu'on protège trouvent aussi leur équilibre.
Est-ce que la spéléologie a un avenir, peut-être? Enfin, on parle des lieux de fraîcheur, on pense à la rivière, mais les grottes, les avennes...
Non, potentiellement, c'est difficile de répondre avec la boule de cristal, mais potentiellement, on peut se dire que oui, c'est une activité à faire en journée quand il fait très chaud, que ça pourra peut-être se développer. Alors, à nous, du coup, de bien l'encadrer, parce qu'il y a quand même des enjeux dans ces endroits-là, des enjeux naturalistes. Et puis à nous de former, de sensibiliser les guides et les pratiquants. Mais peut-être, oui, qu'il y aura beaucoup plus de spéléo sur le territoire.
Bah, c'est un enjeu pour les Cévennes, dans le sens où une partie du territoire des Cévennes est constituée de roches calcaires, de plateaux karstiques. Donc en fait, c'est le type de relief et de roches dans lequel on va retrouver un certain nombre de cavités, plus ou moins déjà connues, hein, mais peut-être plus d'un réseau un petit peu plus informel. Donc ouais, ça pourrait être un certain enjeu. Après, ça suppose derrière des questions d'aménagement, parce que des questions d'accessibilité. Après, ça reste une pratique, pas de niche, mais une pratique... Si, un peu de niche quand même, et puis un peu d'initié tout de même, qui n'est pas forcément accessible encore à tous, même si y a, dans le réseau Spéléo en France, il y a plein d'initiatives qui se font pour rendre la pratique de plus en plus inclusive.
Oui, ce serait plutôt un tourisme de niche. On va pas dans une grotte comme, on fait pas de la spéléo comme on va à la baignade.
Non, mais il y a tout un enjeu autour de son encadrement et de son ouverture auquel un certain nombre de réponses peuvent être apportées.
Juliette, de quelle façon participe concrètement le parc dans ce projet?
Alors la première étape, c'est d'accueillir un stagiaire qui va travailler pendant 6 mois avec nous au parc et qui est encadré avec toute cette équipe Et puis moi et Nathalie au parc. Donc c'est Jimmy Toulouse et on l'a accueilli début mars. Et lui, son travail, ça va vraiment être ça, d'aller chercher tous les lieux de fraîcheur qui existent, qui existeront, et de croiser avec les enjeux naturalistes, de croiser avec les pratiques, de faire des enquêtes. Et on est très heureux de l'accueillir jusqu'à fin août. Et puis, il y a aussi une autre stagiaire qui va travailler sur ce sujet, mais depuis Toulouse. Et je laisse Marie en parler.
Alors, il faut mieux que ce soit Julien et Emmanuel qui en parlent, parce que c'est eux qui travaillent un peu plus directement que moi avec Emma.
Oui, donc on a effectivement un stagiaire qui est basé à Florac dans les locaux du parc, et puis on a recruté Emma Ténès qui a fait son master donc à Toulouse-Jean Jaurès, le master tourisme et développement, et qui va nous aider à travailler sur vraiment d'une manière un peu plus globale les questions d'adaptation au changement climatique du point de vue des acteurs du tourisme au sein du parc. De manière un peu plus générale, quoi, d'étudier leur perception des évolutions du milieu physique et leur mise en place de stratégies d'adaptation.
Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose pour clôturer cette émission ?
Que nous, en tant que Julien, Emmanuel et moi, en tant que finalement que nous, nouveaux chercheurs en Occitanie, on est, je crois, très contents d'initier ce nouveau projet, enfin de porter ce nouveau projet avec le parc. C'est individuellement, ça nous fait découvrir finalement un territoire qu'on pouvait connaître plutôt de nos pratiques à nous en tant que, on va dire, touristes qui se promènent dans les moments où on ne travaille pas, ce qui arrive parfois. Et puis voilà, c'est une nouvelle intégration pour nous sur un nouveau territoire, donc on en est très contents. Et en tout cas, moi ça me porte, même si aujourd'hui nous venons sur un jour où il a plu toute la journée.
Donc on n'a pas. Mais ça fait partie des Cévennes.
Exactement, ces épisodes cévenoles, on les vit à 100% aujourd'hui.
Il y a peut-être un point que je voulais quand même ajouter, c'est qu'il y a un mouvement dans le monde de la recherche qui a été autour de l'interdisciplinarité, le fait de mixer les disciplines pour essayer de répondre à une recherche précise. Et là, ce que je trouve intéressant aussi dans le développement de ce projet, c'est qu'on est vraiment dans la démarche transdisciplinaire. Donc ça veut dire qu'en fait, les questions qu'on pose dans le cadre de ce projet, on les a pas, nous, travaillé au laboratoire et puis arrivé comme ça en disant, regardez, on va travailler sur ça, c'est super. On a discuté avec Juliette, on a discuté avec Edwige, enfin, on a discuté avec les membres du parc et on a essayé de co-construire ce qu'on allait faire. Et on essaie de... Alors, c'est pas toujours simple, hein, mais en tout cas, on essaie de vraiment d'avoir cette approche-là et puis d'essayer de co-construire ce qu'on fait avec le territoire. Et pas... De manière dans une tour d'ivoire, par exemple.
Surtout, si j'ai une petite minute pour terminer, cette question-là de la transdisciplinarité, elle est super importante aujourd'hui au regard des enjeux environnementaux qui sous-tendent, que ce soit en termes de biodiversité, en termes de réchauffement climatique. En fait, les questions environnementales touchent finalement les disciplines, certes des sciences dures, hein, biologie, écologie, etc., mais aussi, surtout, des sciences humaines et sociales, parce qu'on ne peut pas en exclure absolument pas l'humain. Hein, il ne s'agit pas de dire, voilà, société humaine disparaissait, etc. Au contraire, il s'agit de penser les transitions avec les sociétés humaines et donc finalement les disciplines scientifiques, qu'elles soient naturelles et humaines et sociales, ont intérêt à travailler ensemble. C'est l'enjeu environnemental d'aujourd'hui et de demain, et c'est en ça que ce projet s'y inscrit tout à fait. Ouais.
D'avoir, oui, effectivement, toutes les facettes, parce que l'économie, c'est primordial aussi. Comment les prestataires, les pratiquants, comment chacun s'y retrouve, comment chacun continue à vivre sur ce territoire. Territoire, enfin, pour ce qui concerne le parc, qui compte 71 300 habitants. Enfin, c'est pas non plus un territoire qui connaît une forte population, même si elle a quand même augmenté.
Tout à fait, je pense à ça dans les échanges de mes collègues. En fait, par exemple, au niveau économique, on peut se demander l'impact que ça pourra avoir sur le fait de générer un certain revenu pour que les populations puissent vivre sur le territoire. Parce que, évidemment, quand vous avez des déplacements de population, quand je parle des pratiquants ici, s'ils se déplacent sur le territoire, ils sont peut-être un peu moins souvent ici, un petit peu plus souvent là. Et ben, c'est-à-dire qu'il faut réaffecter en fait, les aides. Il faut réaffecter les aides pour pouvoir faire en sorte que le territoire en entier puisse survivre. Je pensais aussi, par exemple, aux déplacements. On en parlait tout à l'heure en aparté avant l'émission, quand les personnes ont besoin d'aller se baigner dans d'autres endroits qu'ils connaissent un peu moins, que c'est peut-être un petit peu plus loin de l'endroit où ils résident, il va peut-être falloir mettre en place des mobilités douces, des transports en commun. Donc ça a un impact assez conséquent, parce que voilà, les élus locaux, il va falloir qu'ils décident de voter les budgets. Donc il y a toutes ces dimensions-là au niveau économique dont il faut tenir compte.
La mobilité est une grosse problématique.
Un sujet d'avenir.
Très bien, je vous remercie.
Merci
et
beaucoup.
Belle continuation, bon travail.
Merci beaucoup. Merci.
On est impatients d'avoir votre analyse. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt.
Vous écoutez Séquence Parc sur 107 FM et sur le site www.radiopartas.net.
Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes, un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes, elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante le jeudi à 8h30.
Séquence Parc sur le 107 FM.